sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette généreuse présentation. Alors, c'est toujours un honneur que de prendre la parole devant votre compagnie, et c'est en même temps un honneur redoutable, parce que je m'exprime en présence d'experts, de juristes éminents, et donc je prends un certain risque. Alors, le droit international, il ne concerne qu'une partie de l'action extérieure de la France, mais c'est une partie importante et c'est une partie grandissante. L'une des difficultés du sujet, c'est de le traiter de l'intérieur. Et, comme l'écrivait Spinoza, la bougie n'éclaire pas sa base. Je vais tout de même essayer, et quelques remarques préalables s'imposent pour définir un petit peu le contexte du sujet. D'abord, en quoi consiste le droit international ? Il y en a plusieurs définitions. Pour certains, c'est l'ensemble des normes qui régissent l'humanité tout entière. C'est un droit des gens, un droit commun, qui comprend l'ensemble des droits nationaux, qui concerne aussi bien les relations interindividuelles que les relations entre groupes, dont les États. Pour d'autres, il se limite au droit positif, droit qui est volontairement posé par les États pour régir leurs relations. C'est donc un droit interétatique qui se distingue des droits nationaux. Il est variable suivant l'intensité des relations qu'entretiennent les États entre eux, et il ne comprend qu'un nombre limité de règles générales applicables à tous. Entre les deux définitions, deux pôles, il existe nombre de variantes. Le juge de paix, c'est le statut de la Cour internationale de justice. Pourquoi lui ? Parce qu'il est nécessaire d'indiquer au juge quel droit il va appliquer. Et ce droit, c'est le droit international. Ce statut nous indique donc en quoi consiste le droit international. Et que dit-il ? La Cour applique les conventions internationales expressément reconnues par les États en litige. Deuxièmement, la coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Troisièmement, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Entre conventions et coutumes, pas de hiérarchie. En revanche, les principes généraux n'interviennent qu'à titre subsidiaire, qu'à titre complémentaire. Les conventions fixent des règles écrites, la coutume et les principes généraux sont, par définition, non écrits et résultent donc d'une construction intellectuelle qui est opérée soit par les États eux-mêmes, soit par un juge. On ne trouve en droit international ni constitution ni code. Sa colonne vertébrale repose toutefois sur une vingtaine de grands traités multilatéraux, universels ou quasi-universels, dont la Charte des Nations Unies est l'archétype. Quant à la coutume, c'est elle qui structure plus largement la société internationale, avec notamment le statut de l'État. C'est elle qui contient l'ensemble des règles qui sont liées au statut de l'État. La coutume donne son unité au droit international. Elle est à la fois sa grammaire et son vocabulaire, dans la mesure où la plupart des concepts que l'on utilise sont de nature ou d'origine coutumière. Il arrive d'ailleurs que la coutume se superpose au traité, que les deux types de normes coexistent, et qu'une même règle soit à la fois conventionnelle et coutumière. Ce qui permet de lier les États qui ne sont pas partis aux conventions en cause. Il faut ajouter que le droit international ne comporte ni objet particulier, ni idéologie déterminée. Il est neutre. C'est un instrument. Son contenu est constitué par l'ensemble des normes conventionnelles et coutumières. La seule restriction est que ces normes doivent provenir des États, de façon directe ou indirecte. Mais sous cette condition, il peut être universel, il peut être régional, comme l'est le droit européen, il peut être bilatéral. Il peut aussi ne concerner que des rapports interétatiques ou s'adresser directement aux individus par l'entremise des États. Il peut en quelque sorte être un droit privé des États ou un droit public des peuples. Il peut aussi, et il le fait généralement, il peut aussi créer de nouveaux sujets et acteurs du droit international, comme il l'a fait avec les organisations internationales. Alors cette diversité des objets, on va la retrouver avec les techniques, puisqu'il est contractuel avec les conventions, il est consensuel avec la coutume, il est autoritaire même avec les actes unilatéraux, par exemple les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité ou encore les décisions des juridictions internationales. Une deuxième remarque préalable consiste à observer que la France est un État qui croit au droit international. Ça pourrait sembler une platitude, mais en fait, il existe aujourd'hui nombre d'États, et même parmi les plus grands, qui ne paient qu'au droit international qu'un lip service et ne le reconnaissent que lorsqu'il sert leurs intérêts. C'est particulièrement vrai du droit de la sécurité, qui est aussi un droit de la paix et de la guerre. Le Moyen-Orient est par exemple une région qui donne l'impression d'être un tombeau du droit international. Ce droit, il doit en outre faire face à un certain scepticisme de l'opinion publique. Même pour la France, on connaît, alors ce n'est pas tout à fait récent, voici un siècle, l'anecdote du dîner entre Clemenceau et Wilson au moment de la conférence de la paix. « Vous voyez ce poulet ?» dit Clemenceau à Wilson qui lui vantait les beautés de la paix par le droit. Il croyait au droit international. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé, aussi bien pour ce qui concerne la place du droit international que pour l'activité de la France. La France participe très largement aux conventions internationales et les applique très généreusement en droit interne, particulièrement le droit européen, qui est, il ne faut jamais l'oublier, une branche du droit international et qui n'a pas de véritable autonomie. Mais cette confiance envers le droit ne se limite pas. Et on sait que nombre de normes internes, de lois internes, reprennent, appliquent des normes d'origine européenne. Alors il y a aussi un volet extérieur, et il suffit de consulter le très riche rapport d'activité de la Direction des affaires juridiques, qui est publié tous les ans par la Direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, pour se convaincre de la diversité des terrains de son intervention et des registres de son action. Cette direction des affaires juridiques est devenue une des directions essentielles du ministère. Elle a vocation à couvrir l'ensemble des relations extérieures, à leur assurer cohérence et continuité dans le cadre de la conception française du droit international. Depuis 2018, il existe un comité directeur des affaires juridiques qui regroupe les directeurs, l'ensemble des directeurs du ministère et qui définit donc une politique juridique commune pour le département. Je viens de parler de la conception française du droit international. Comment est-ce qu'on peut la résumer, cette conception ? Eh bien, un premier élément, je crois, c'est que la France est une puissance statu quo, une puissance qui, dans l'ensemble, est satisfaite de l'état actuel du droit international, qui reconnaît ses intérêts, qui reconnaît son rôle et qui les préserve. Au fond, la France n'a pas, sur le plan juridique, de revendications particulières. Dans une certaine mesure, la France est juridiquement une puissance conservatrice. C'est le versant juridique de sa posture politique internationale, de puissance d'équilibre, de puissance médiatrice, de recherche de l'harmonie. Au fond, on pourrait dire que la France, si vous me permettez d'employer un terme anglo-saxon, aspire à être un fair power, c'est-à-dire un pouvoir équilibré, un pouvoir équitable, un pouvoir raisonnable. Bien sûr, c'est à nuancer et j'aurai l'occasion d'y revenir. Un second élément de cette conception française, c'est la préférence pour le droit écrit. Ça se marque par exemple par la difficulté qu'éprouvent les juges internes à reconnaître et à appliquer la coutume, alors même qu'ils sont de plus en plus ouverts au droit international. Ou encore que la France ne considère pas comme obligatoire ce qu'on dénomme le « soft law », le droit mou, le droit incomplet, qui sont des normes rhétoriques et médiatiques qui proviennent pour la plupart d'organisations internationales. Or, ces normes, elles se sont beaucoup répandues au cours de ces dernières décennies et elles tendent à brouiller la distinction entre droit positif et discours juridique. Une dernière observation préalable a trait à la manière de considérer le droit international. Si on veut analyser l'influence française, il faut distinguer suivant l'approche que l'on en a. Et au fond, on peut distinguer trois approches possibles. Il y a celle des légistes, il y a celle des juristes, et il y a une troisième qui est plus difficile à qualifier, comme on voudra, celle des justes, celle des prophètes, celle des visionnaires, celle des sages. Alors, je ne sais pas trop comment la qualifier, et j'ai choisi un terme qui est un terme un petit peu vieilli, mais qui tout de même correspond à une réalité, ce sont les publicistes. Et donc, je distinguerai entre les légistes, les juristes et les publicistes. Les légistes, c'est en quelque sorte des juristes organiques, qui sont au service de l'État, dont ils défendent les positions, et qui contribuent à l'éclairer sur les contraintes, sur les possibilités que lui offrent ses engagements. Il l'aide à définir sa politique juridique. Voilà un premier registre de l'influence française. Viennent ensuite les juristes, en principe indépendants, qui analysent le droit, le systématisent, peuvent en faire la théorie. Ils peuvent aussi critiquer la politique juridique des États, proposer un autre droit. On les trouve principalement dans les centres de recherche, dans les universités. Ils représentent la doctrine. La question est de savoir si la doctrine française peut influer sur le droit international. Reste enfin la troisième catégorie, les publicistes, les visionnaires, les justes, les sages, ceux qui réfléchissent et qui écrivent sur les affaires publiques. Ils recherchent le bon droit. Ils militent pour sa reconnaissance par les autorités, par l'opinion, par la doctrine même. Et ils utilisent divers canaux à cette fin. La France est très riche de cette approche du droit international, et je l'évoquerai dans un troisième point. Alors j'ai dit qu'il s'agissait de trois approches différentes, mais ça ne correspond pas pour autant à trois catégories de personnes ou d'esprits, parce que les mêmes peuvent être, suivant les circonstances, suivant les périodes, être alternativement ou successivement légistes, juristes, militants pour un autre droit international ou pour un droit réformé. Mais enfin, les registres et les canaux de cette influence sont différents, de même que l'influence elle-même. Si on voulait la résumer, cette influence ou ses aspirations à l'influence, on pourrait dire que les légistes ont une influence politique, les juristes une influence professionnelle et les publicistes une influence intellectuelle. Commençons par les légistes. Les légistes sont donc chargés de mettre en forme la politique juridique de l'État, de soutenir ses thèses dans les instances internationales, et s'il s'agit de réformes, les légistes doivent veiller à ce qu'elles soient conformes à la politique ou à la conception générale du droit international. Par là, ils vont exercer une influence non seulement sur les engagements de l'État, mais aussi sur les négociations internationales. Ils ne les dirigent pas. Ces négociations, elles relèvent avant tout des politiques et des diplomates. Mais leur rôle n'est pas un simple rôle d'écriture, il touche à la substance même du droit. Alors j'ai souligné déjà l'importance de la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. D'autres ministères interviennent aussi sur le plan international, notamment le ministère des Armées, et la direction juridique du ministère des Armées a vu son rôle accru. Le rôle du droit dans les opérations extérieures est en effet très important, surtout lorsqu'il s'agit d'opérations extérieures qui sont menées sous l'égide de l'ONU ou d'autres instances internationales. Il faut ajouter qu'à côté de ces instances nationales, il existe beaucoup d'organisations internationales qui comportent des services juridiques. La présence des Français en leur sein est importante. Cette présence a un effet de milieu. Elle devient un élément de la culture juridique de l'organisation. Alors, il existe sur ce point des données quantitatives, le nombre des Français qui sont dans les organisations, mais ça n'est pas nécessairement le plus significatif, pour deux raisons. D'abord, les Français ont tendance, lorsqu'ils sont dans une organisation internationale, à se dénationaliser. Ils sont loyaux à l'égard de l'organisation, ils ne jouent pas le rôle de certains autres, ce n'est pas le cas de tous, qui restent en réalité avant tout attachés à leur État. D'autre part, ensuite, dans la lutte pour le droit qui se développe entre le système continental, le système romano-germanique d'influence française et la common law, les Français ne sont pas les seuls à défendre le système romano-germanique. Il y a les Européens, il y a aussi les francophones, de façon plus générale. Alors, pour essayer de mesurer un peu plus précisément le rôle de la France, l'influence, je crois qu'il faut distinguer entre le plan universel et le plan européen. Et là, les conclusions sont assez différentes. Sur le plan universel, il faut reconnaître que cette influence est en déclin, avec de beaux restes. Au-delà du droit des affaires, depuis longtemps dominé par les régulations anglo-saxonnes, le droit international pénal est un exemple caractéristique. Lorsque, au début des années 90, le Conseil de sécurité a institué des tribunaux internationaux pénaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie, puis pour le Rwanda, la question a été posée de la procédure qu'on allait suivre. Et le choix a été favorable à la procédure accusatoire de type anglo-saxon contre la procédure française de type inquisitoire. Et dans le même esprit, on a exclu le jugement par contumace ou par défaut, alors que ce jugement par contumace, il aurait été une arme puissante au service des juridictions internationales. Mais il n'est pas admis par la procédure anglo-saxonne. Le jugement par contumace, il n'est possible qu'avec le tribunal spécial pour le Liban, parce que le Liban est un droit d'influence française. Alors, bien sûr, on rencontre dans les juridictions pénales des juges de nationalité française, mais ils sont soumis à une procédure anglo-saxonne. Et là, c'est un vif contraste avec le début du XIXe siècle, lorsque le droit français a inspiré le mécanisme de l'extradition, qui est la première et qui reste d'ailleurs une des plus importantes formes de coopération pénale entre les États. Un autre exemple du déclin de l'influence française est le fait que depuis quelques mois, la France ne compte plus de ressortissants à la Commission du droit international, la CDI, Commission du droit international de l'ONU. Or, la CDI est chargée de codifier le droit international, c'est-à-dire de transformer les règles coutumières en règles écrites, afin de les rendre plus claires et plus fermes. Depuis son origine en 1948, cette commission avait toujours comporté un Français en son sein, généralement un universitaire de renom, et son influence était significative. La CDI a été la matrice de grandes conventions internationales, notamment sur le droit des relations diplomatiques et consulaires et sur le droit des traités. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la Commission du droit international, contrairement peut-être à sa mission initiale, tend davantage à contribuer à l'évolution du droit coutumier, parce qu'elle n'adopte plus de projets de traités. Elle adopte de simples projets d'articles qui sont soumis à l'Assemblée générale, et qui sont recommandés ou qui ne sont pas recommandés par l'Assemblée générale. Et là, c'est un changement de méthode très important, parce qu'au lieu d'adopter des conventions qui engageraient les États, on propose des normes flottantes, au statut juridique incertain, avec l'espoir que la Cour internationale de justice les reprendra et leur donnera efficacité en les considérant comme des éléments du droit coutumier. Autrement dit, un couple coutume-juge se substitue au couple droit écrit, engagement formel des États. Dans ces conditions, l'absence d'un membre français à la CDI est assez logique, mais elle n'en est pas moins regrettable. En revanche, la Cour internationale de justice, elle accueille depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui un ressortissant français en son sein. Et certains des Français ont exercé, plusieurs des Français, je salue le fauteuil du président Guillaume qui n'est pas là aujourd'hui, ont exercé les fonctions de président de la Cour internationale. Ça a été le cas jusqu'à maintenant pour tous les membres permanents du Conseil de sécurité qui comptaient un ressortissant de leur nationalité au siège de la Cour. Mais voici quelques mois, un juge de nationalité britannique n'a pas été réélu, ce qui est apparu comme un coup de tonnerre dans le ciel, dans le monde juridique international, et ça soulève la question de la pérennité du juge français au sein de la Cour internationale. Alors c'est même probablement une conséquence anticipée du Brexit, dans la mesure où le soutien de l'Europe, des pays européens, à ce juge n'a pas été très fort, mais c'est surtout un signe du déclin de l'Europe dans des instances de ce type. Et malgré l'absence du juge britannique, la conception anglo-saxonne du droit reste très puissante grâce aux autres juges. Or, d'après le statut de la Cour, intégré à la Charte des Nations Unies, le français devrait être la première langue de la Cour et les juges devraient être bilingues. Et aujourd'hui, si le greffe demeure un réduit francophone assez solide, le nombre de juges qui sont effectivement francophones au sein de la Cour diminue fortement et malheureusement, je dois le dire, la France ne semble pas s'en émouvoir. Or, on sait que la langue porte le droit et l'influence du milieu joue contre l'influence juridique française. Je vais en prendre un exemple tout à fait récent. Dans une affaire qui était soumise à la Cour entre le Nicaragua et la Colombie, ce qu'on appelle l'arrêt Nicole, il existait un traité bilatéral qui pouvait permettre de régler le différend. Malgré les protestations du juge français, la Cour l'a écarté, en lui préférant une règle coutumière. C'est un signe supplémentaire de l'attraction du droit coutumier par rapport au droit écrit de type continental. Alors, il est vrai que la France n'accepte plus, depuis une quarantaine d'années, la juridiction obligatoire de la Cour, mais ça peut se comprendre lorsqu'on constate l'évolution de la CIJ. Je prendrai enfin l'exemple des grands traités multilatéraux. Et là, la position de la France est assez ambiguë. En principe, elle est favorable au multilatéralisme. Elle le proclame volontiers. La réalité est beaucoup plus nuancée. Elle a mis, par exemple, très longtemps à ratifier le traité sur la non-prolifération, qui est le traité de base, le pilier de la non-prolifération. Elle a mis également beaucoup de temps à ratifier le traité de Montego Bay sur le droit de la mer. Elle a hésité à ratifier le statut de Rome sur la Cour pénale. Elle ne l'a fait qu'avec une réserve. Et même en matière des droits de l'homme, produit d'affichage des ONG, des politiques et des médias français, il a fallu attendre près d'un quart de siècle pour qu'elle ratifie la Convention européenne des droits de l'homme et plus de 30 ans pour qu'elle accepte la juridiction de la Cour européenne, malgré la personnalité de René Cassin, dont on connaît le rayonnement. Alors ces retards, ils sont l'indice d'une position défensive. On peut citer en sens inverse l'accord de Paris sur le climat, signé en 2015, dont la France a été la cheville ouvrière. Mais d'abord, c'est un multilatéralisme de mauvaise qualité, qui ne comprend que des promesses et pas d'engagement réel, et qui ne comporte aucun mécanisme d'application, ni même de surveillance. C'est ensuite un accord dont les États-Unis se sont retirés, ce qui présage, ce qui n'augure pas bien de son efficacité. Au fond, il me semble qu'on peut se demander si, en définitive, la France n'est pas plus hostile à l'unilatéralisme que favorable au multilatéralisme. Et ce qu'il indique, par exemple, c'est son attitude après le rejet de l'accord conclu avec l'Iran en 2015 par les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Alors, bien sûr, Conseil de sécurité, c'est un cas particulier. C'est un multilatéralisme aristocratique. Et la France en est un membre permanent, elle y est très attachée, attachée à son siège, attachée à ses règles. Et elle soutient, dans ce cadre, elle soutient fermement que l'emploi international de la force doit être autorisé, toujours, par le Conseil de sécurité. Lorsqu'elle procède à des opérations extérieures nationales, elle recherche l'appui du Conseil de sécurité, et sur ce terrain, elle défend vigoureusement la charte, et on peut dire qu'elle a rencontré de grands succès. C'est ainsi qu'en 2001... Après les attentats du 11 septembre, l'ambassadeur Jean-David Lévite, qui malheureusement n'est pas là non plus, qui était représentant personnel de la France, a été l'initiateur et l'un des grands artisans de la résolution 1368, adoptée à l'unanimité dès le 12 septembre. Et cette résolution reconnaissait que les États-Unis étaient en situation de légitime défense et pouvaient donc recourir à la force armée. L'idée était d'intégrer l'intervention américaine, qu'on savait inévitable, dans le cadre des Nations Unies, et donc de permettre d'exercer sur elle un certain contrôle. La résolution demandait en même temps aux États-Unis de traduire en justice les auteurs et les complices des attentats. Elle enjoignait aux autres États de coopérer à cette fin. En d'autres termes, c'était une condamnation préventive de Guantanamo, puisqu'on demandait des procès. Et, en l'occurrence, la résolution n'a pas été appliquée par les États-Unis. Et le succès le plus éclatant est survenu en 2003 avec l'intervention anglo-américaine en Irak. Cette intervention, elle était non seulement contraire à la charte, mais elle était contraire aussi à une résolution du Conseil de sécurité qui avait institué un mécanisme de contrôle, de surveillance très étroit de l'Irak. L'intervention militaire a eu pour conséquence de détruire ces mécanismes et de les détruire de façon irrégulière. Et cette intervention reposait sur des assertions mensongères, on le sait maintenant. Et lorsque la France a menacé d'utiliser son veto pour bloquer une résolution qui autoriserait une telle intervention, la France a protégé le Conseil. Elle lui a évité de cautionner une action sans fondement. Elle a évité à l'ONU un engagement déshonorant. Elle a protégé le Conseil, mais elle a aussi protégé la Charte. Alors, elle n'a pas empêché l'intervention, mais elle l'a juridiquement délégitimée. Elle n'a pas été complice du désastre qu'elle a provoqué. Et la France a été en flèche dans cette affaire. Il a fallu l'intervention télévisée de M. Chirac. Il a fallu le discours enflammé de M. Villepin au Conseil de sécurité. Et il faut bien dire que si la France était seulement abstenue, comme le lui suggéraient certains diplomates, probablement la résolution serait passée parce qu'aucun autre État n'aurait mis son veto. Par la suite, il faut bien dire que la France a pris une initiative juridique que l'on peut trouver plus contestable. C'est la proposition suivant laquelle, en présence de massacres de masse justifiant une intervention humanitaire, même coercitive, les membres permanents devraient s'abstenir d'utiliser leur droit de veto pour permettre l'adoption d'une résolution qui autoriserait une intervention armée. Cette proposition, elle a été évidemment très bien accueillie par un grand nombre d'États qui sont hostiles par principe au veto. Et elle a été ignorée et rejetée ou rejetée par les autres membres permanents. Et là, à mon sens, la France, dans cette occasion, a affaibli sa position au sein du Conseil. D'abord, pourquoi est-ce qu'on découperait le veto en tranches ? Si on y renonce dans un cas, comment justifier qu'on le maintienne dans les autres cas ? Et ensuite, si on veut que le mécanisme fonctionne, c'est-à-dire que l'abstention aboutisse au vote de résolution, il ne suffit pas que les membres permanents s'abstiennent ou votent pour. Encore faut-il que les membres non permanents ne s'abstiennent pas et votent pour. Autrement, il n'y a pas de majorité. Or, en général, les membres non permanents, qui émanent des petites puissances, sont très réticents à l'égard des interventions extérieures des grands États. Et je ne parle même pas ici des difficultés techniques et politiques et juridiques qu'il peut y avoir pour constater la réalité de massacres sur le terrain. Et donc, je pense que cette proposition n'était pas, dont on ne parle plus d'ailleurs depuis quelques années, n'était pas tout à fait judicieuse. Si on part maintenant du plan universel au plan européen, eh bien, là, la situation est très différente et la position du droit français est beaucoup plus favorable. La France, on le sait, est un pays fondateur et même initiateur de la construction européenne, de sorte que son influence sur l'architecture de la communauté puis de l'Union, qui repose essentiellement sur le droit, doit beaucoup à ses conceptions juridiques. On le constate avec la prédominance et même la quasi-exclusivité du droit écrit, la hiérarchie des normes communautaires, et surtout le rôle de la Cour de justice des communautés européennes devenue Cour de justice de l'Union européenne. Et on sait que la jurisprudence de cette Cour a été fondamentale pour le développement du droit communautaire. Et là, vraiment, on évoque cette logique juridique évoque celle du droit administratif et du Conseil d'État. Sans doute, les élargissements successifs, l'ombre de l'OTAN dans son sein, le poids de la langue anglaise, relativise aujourd'hui l'influence du droit français. Mais le traité de constitution pour l'Europe qui avait été élaboré par la commission Giscard d'Estaing et qui a été repris sur nombre de points par le traité de Lisbonne témoigne encore de l'influence française. On peut y ajouter le souci de réglementation qui caractérise la Commission européenne. Souci de réglementation qui en fait une institution beaucoup plus régulatrice que libérale et qui, là encore, rappelle le droit administratif. C'est une observation qui ne vaut pas pour la Cour européenne des droits de l'homme. Elle applique une convention qui est, en quelque sorte, le patrimoine commun de tous les membres du Conseil de l'Europe. Elle repose sur une technique de protection des droits de l'homme qui est très différente de celle du droit américain, puisque le droit américain ne veut connaître que la d'une part, ne veut connaître que la Constitution américaine, et d'autre part, a des vues très différentes pour ce qui est de la liberté d'expression, du droit de porter des armes, de la liberté religieuse. Et la CEDH s'appuie de son côté sur une norme internationale. Mais malgré tout cela, on constate une tendance de la Cour européenne, on constate dans sa jurisprudence une tendance à s'inspirer du modèle américain dans l'interprétation de la Convention. Et la conception française du droit y est plutôt protégée comme une exception ou reçue comme un modèle spécifique, par exemple en matière de laïcité, et on pourrait dire qu'on passe ainsi de l'universel à l'exceptionnel. Voilà ce que je peux dire sur l'influence des légistes, et maintenant quelques mots sur l'influence des juristes. Et là, je serai plus bref, parce que la doctrine, au fond, n'exerce qu'une influence assez mineure sur le droit international. Elle concerne les professeurs de droit, les chercheurs, parfois des avocats. Au fond, elle intervient surtout dans la formation des légistes, qui vont être concrètement les acteurs du droit international. Elle reste peu connue des opinions publiques, elle n'exerce qu'une influence limitée sur les juridictions, même si le statut de la Cour y voit un moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. En outre, elle est partagée entre plusieurs courants de pensée, et son influence se trouve encore limitée par la séparation en France entre études du droit international et études des relations internationales, ce qui est dommageable pour la compréhension des deux. Raymond Aron, qui a méconnu le droit international, en est un exemple caractéristique. Alors, si on se concentre sur la doctrine juridique, on peut opposer une doctrine analytique et une doctrine militante. La première est en quelque sorte spinoziste, ne pas rire, ne pas s'indigner, ne pas pleurer, comprendre. Et la seconde est plutôt kantienne, plaider pour le bon droit, critiquer ce qui est au profit de ce qui devrait être. En d'autres termes, comprendre le droit ou le transformer. Entre les deux familles, le dialogue est difficile, et le droit international, il apparaît comme un champ de bataille ou comme une scène de ménage. Les analystes sont accusés d'étroitesse d'esprit, de conservatisme, les militants sont accusés de confusion des genres entre droit et discours juridique. Aux États-Unis, ce sont les critical studies qui correspondent à cette doctrine militante. Cette doctrine militante, c'est la plus visible, parce qu'elle recherche des soutiens, elle agit dans une logique de conviction, mais elle donne souvent une idée fausse du droit international, ce qui contribue à le dévaloriser dans l'opinion. Elle lui suppose des promesses qu'il ne donne pas en réalité. Elle est sensible à l'actualité, certains diraient aux modes qui passent. Elle est relayée par les ONG, dont elle-même est le versant académique. Et elle tente à surestimer le rôle du droit au nom du règne du droit. J'en donnerai un seul exemple. En France, la mode a été dans les années 70 au droit du développement, qui aspirait à résoudre le problème du sous-développement par des réformes juridiques, le nouvel ordre économique international. C'était le relais juridique du tiers-mondisme. Il a tendu à dominer l'ensemble du droit international. Il a donné lieu à un militantisme juridique où se sont notamment illustrées les rencontres de Reims, animées par le professeur Charles Chaumont. C'est une prétention juridique qui s'est effondrée après la chute du mur de Berlin et dont aujourd'hui il ne reste rien. En revanche, il reste des institutions doctrinales plus analytiques, et là, je crois qu'il faut encore distinguer entre le plan universel et le plan européen. Sur le plan universel, on retrouve la même observation que pour les légistes. Une influence en déclin avec de beaux restes. De beaux restes parce que nombre de publicistes et de juristes français ont réfléchi sur la société internationale, sur la régulation de cette société, et qu'ils ont contribué à définir ses cadres de pensée et ses concepts. Mais on va plutôt les retrouver au titre des sages, au titre des prophètes. L'influence des juristes est aussi en déclin, et ce déclin accompagne le reflux de l'usage du français dans les relations et dans les instances internationales. C'est ainsi que les revues américaines ne citent pratiquement jamais d'auteurs français. Et il y a quelques années, un juriste français de renom a protesté auprès de l'American Journal. Elles se sont bornées à publier sa protestation sans que ça change en quoi que ce soit leur pratique. Alors, il existe une instance doctrinale universelle qui a été créée en 1873 et qui est l'Institut de droit international, qui regroupe des juristes de toutes nationalités par groupes nationaux. Il y a un groupe français, il peut s'exprimer, il peut se faire entendre. Mais enfin, l'Institut de droit international, qui travaille parallèlement à la Commission du droit international, n'a pas non plus une audience formidable. de telle sorte que le principal réduit de l'influence doctrinale française, elle est à l'Académie de droit international de La Haye, qui est installée au Palais de la Paix, aux côtés de la Cour internationale, et qui a été créée après la Première Guerre mondiale. Les Français y ont une place, et y ont encore une place privilégiée. Le secrétaire général est toujours un Français, généralement un ou une universitaire de renom. Les cours y sont publiés alternativement en français et en anglais. Et les cours généraux de l'Académie de droit international constituent un panorama très complet de la doctrine sur maintenant un siècle. Et ceux qui assurent ces cours sont choisis parmi les juristes les plus représentatifs. Alors là encore, l'influence exercée ne peut être qu'indirecte, parce que c'est la formation des futurs juristes et des futurs légistes. Mais la visibilité de la doctrine française et francophone y est pleinement, largement assurée. Si maintenant on passe au plan européen, la situation est différente, parce que le milieu est beaucoup plus réceptif et que la place de la doctrine française et dans ses différents courants y est plus affermie. Elle est regroupée, cette doctrine, autour de deux institutions, l'Annuaire français de droit international et la Société française pour le droit international. Les deux sont un héritage de, je ne sais pas si je dois dire, de votre confrère ou de votre consoeur, Madame Suzanne Bastide, dont l'influence a été majeure dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle a non seulement formé des générations de professeurs de droit international, mais elle a aussi créé ces deux instruments, ces deux institutions, qui constituent véritablement la colonne vertébrale d'une discipline, d'une doctrine juridique française. L'AFDI, il est né en 1955, et tous les juristes francophones y écrivent ou contribuent, ou aspirent à y contribuer. C'est une publication indépendante, c'est une publication pluraliste, mais qui a des liens assez étroits avec le Quai d'Orsay. Quant à la Société française, elle existe depuis 1967, elle tient des colloques annuels, elle a développé de nombreux liens avec des sociétés européennes semblables, ils organisent des colloques annuels, et l'influence française se trouve ainsi diffusée et répandue et démultipliée, et elle reste une des principales en Europe. Il y en a d'autres, doctrine italienne, doctrine allemande, ce sont des doctrines tout à fait puissantes. Et la SFDI a commencé depuis très peu de temps à organiser à La Haye des rencontres mondiales. Mais enfin, il est encore trop tôt pour qu'on puisse voir quel est son bilan. Et je terminerai, Monsieur le Président, en étant désolé peut-être d'abuser de votre patience, avec l'influence des publicistes. Et je préfère ce terme à celui de juste, parce que le terme de juste semble leur donner une qualité objective qu'ils n'ont pas nécessairement. Alors jusqu'à maintenant, j'ai cité très peu de noms. Il en va différemment à leur égard, parce que c'est leurs pensées, c'est leurs écrits qui ont permis l'influence de leur doctrine. Il ne s'agit pas toujours de juristes, il s'agit même rarement de juristes. Mais ils ont influé, et leurs pensées continuent à influer sur le droit international, parce qu'elle a structuré les cadres d'analyse, qu'elle a formulé les concepts, et qu'elle a défini les objectifs que devait rechercher le système international. La France en a connu une riche galaxie, et je ne vais pas évidemment en dresser un tableau général, mais peut-être retenir quelques exemples significatifs. Et en effet, à la plupart des grands concepts organisateurs du droit international, les sept piliers, si je puis dire, on peut associer le nom d'un auteur français ou qui appartient à l'univers intellectuel français. Et c'est un patrimoine juridique qui, bien sûr, appartient en partie au passé, mais il est toujours vivant. Quand je vois les bustes qui sont ici, eh bien, j'ai l'impression que je vais aussi essayer de dresser quelques bustes. D'abord, la souveraineté. La souveraineté, eh bien, la souveraineté, c'est Jean Bodin qui en a formulé de la façon la plus nette le concept dans les six livres de la République, un ouvrage qui date de 1576. Et au fond, Jean Bodin a inspiré aussi bien Hobbes que Rousseau. Et la souveraineté reste aujourd'hui le fondement du droit international. Bodin s'attache surtout à la dimension interne de la souveraineté de l'État, mais il la détache de toute prétention à la supériorité du pape ou de l'empereur, et il la dégage de l'emboîtement complexe des hiérarchies féodales. Alors sans doute il s'appuie sur des précédents, ceux du droit romain notamment, mais on peut le considérer comme le fondateur ou l'un des principaux fondateurs du concept de l'État moderne, avec notamment l'immunité internationale de l'État. Deuxième exemple, c'est la distinction du droit de la paix et de la guerre, telle qu'elle a été formulée par Hugo Grotius. Alors Grotius, on pourrait dire, mais que vient-il faire là, puisqu'il est hollandais, et que son ouvrage fondamental, De jure belli ac pacis, qui a été écrit en 1625, est en latin. Il n'en appartient pas moins à l'univers intellectuel français pour plusieurs raisons. Il a été publié en 1625, donc en France, il a été largement écrit en France. Il est dédié à Louis XIII, alors que Grotius était ambassadeur de Suède à Paris. Il a inspiré Richelieu, dont Grotius était proche, même si Richelieu ne partageait pas toutes ses thèses. Grotius a mis en valeur la plupart des concepts actuels du droit international, la distinction du droit de la guerre et de la paix, le monopole des souverains en matière de recours à la force armée, la souveraineté internationale de l'État, alors que Bodin, c'était surtout la souveraineté interne, le respect des traités, le principe pacta sunt servanda, et la liberté des mers. Ce qui correspond le mieux au droit international tel qu'il le promeut, c'est le traité de Westphalie de 1648, lequel a établi la primauté politique de la France en Europe pour environ 150 ans. Alors, ce traité, il est postérieur aussi bien à Richelieu et à Grotius. Ils étaient morts à cette époque, mais il est leur héritage commun, en quelque sorte. Grotius, c'est l'incarnation du moment français du droit international. Troisième exemple, c'est la recherche de la paix perpétuelle avec l'abbé de Saint-Pierre. L'abbé de Saint-Pierre, également un diplomate, négociateur en 1713 du traité d'Utrecht, traité qui met fin à la guerre de succession d'Espagne, et qui a publié en 1712 un projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Projet qui a eu un grand retentissement tout au long du XVIIIe siècle et qui constitue l'un des premiers textes de la philosophie des Lumières. Il a été commenté avec faveur par Jean-Jacques Rousseau, qui l'a popularisé. Et on retrouve bien sûr l'idée que la guerre doit être exclue des relations normales entre États et qu'il faut employer pour cela des moyens préventifs. Et la recherche de la paix perpétuelle, c'est une constante dans la pensée de la plupart des philosophes et théoriciens qui s'intéressent aux relations internationales, comme Emmanuel Kant, un siècle plus tard, et c'est aussi l'inspiration de la Charte des Nations Unies. On trouve aussi chez l'abbé de Saint-Pierre, l'idée d'une Europe organisée et solidaire, ce qui en fait l'un des précurseurs de la construction européenne. Alors, bien sûr, il y avait des précédents, notamment le grand dessein d'Henri IV, mais le grand dessein d'Henri IV avait été largement oublié après sa mort. Quatrième exemple, c'est le droit public de l'Europe et Montesquieu. Montesquieu, c'est l'auteur de l'Esprit des lois, mais il s'est aussi intéressé aux relations internationales. Et il a mis l'accent sur ce qu'il appelait le droit public de l'Europe. À quoi se réduisait à l'époque le droit international. Et dans le même esprit, Voltaire parlait de la République européenne. Montesquieu a formulé l'un des principes majeurs de ce droit à côté du principe de l'équilibre européen. Et ce principe majeur, c'était que les peuples doivent se faire dans la guerre le plus de bien et dans la paix, pardon, le plus de bien et dans la guerre le moins de mal possible. Ce qui est la base, le fondement intellectuel du droit européen. Humanitaire. Quant à la paix, pour Montesquieu, c'était le doux commerce, c'est-à-dire le libre-échange. Comme l'abbé de Saint-Pierre, Montesquieu s'intéresse surtout à l'Europe. Et c'est le signe, au fond, d'une tendance des publicistes français à penser l'Europe plus que le monde. Une pensée qui va impliquer la recherche d'une organisation propre à l'Europe, qui peut être distincte des règles universelles. On distingue le régionalisme et l'universalisme. Cinquième exemple, c'est le droit des gens ou le droit des peuples et l'abbé Grégoire. Ça nous ramène à la Révolution. On sait que l'abbé Grégoire est un des promoteurs de la suppression de l'esclavage. Il a aussi tenté de faire adopter par la Convention une déclaration du droit des gens. Et il l'a tenté à deux reprises, en 1793 et en 1795. Cette déclaration du droit des gens, elle aurait été le pendant international de la Déclaration des droits de l'homme. Les circonstances politiques n'ont pas permis sa discussion, mais elle est en quelque sorte un pont entre le droit public de l'Europe et la philosophie et le droit des peuples post-révolutionnaires. le droit des peuples, une notion dont on connaît la postérité. La déclaration ne se limite pas à l'Europe, elle est à vocation universelle. On proclame, par exemple, le droit à la liberté et à l'égalité de tous les peuples, ainsi que de tous les États. Elle limite le droit de la guerre à la légitime défense, comme le faisait déjà la Constitution de 1791. Au fond, elle formule des normes qui sont celles du droit international contemporain. Je vais rapidement en terminer. L'organisation internationale est Léon Bourgeois, qui est un sixième exemple. Dès 1913, celui qu'on connaît comme le maître du solidarisme, qui a doté le radicalisme d'une doctrine, publie un ouvrage intitulé « La société des nations ». Il a été l'un des principaux négociateurs des conventions de La Haye de 1899 et de 1907, qui portaient sur le droit de la guerre et qui avaient pour objet d'en limiter la cruauté et n'ont pas empêché la guerre, la Grande Guerre. Mais Léon Bourgeois a été l'un des promoteurs de la Société des Nations. Cette Société des Nations n'a pas répondu à ses ambitions, puisque lui, il voulait une organisation plus puissante, dotée de véritables pouvoirs coercitifs. Il s'est heurté sur ce plan à Clémenceau, qui s'est rallié à la conception anglo-saxonne d'une SDN plus faible, parce que lui ne croyait pas aux garanties institutionnelles. Mais quelques décennies plus tard, la fondation du Conseil de sécurité est en quelque sorte une revanche posthume de Léon Bourgeois. Et enfin, je terminerai avec l'exemple plus contemporain, qui est celui de Jean Monnet. Jean Monnet, qui est un géant du XXe siècle, non seulement par la pensée, mais aussi par les réalisations. Ce n'est pas un théoricien, sa vie a été entièrement tournée vers l'action, et surtout vers l'action internationale. Il a participé à la Société des Nations comme secrétaire général adjoint, mais il a été très vite convaincu des insuffisances de l'organisation, il en a démissionné, et il a pratiqué ensuite une méthode originale qui était à l'intersection du politique et de l'administratif, de l'interne et de l'international, du public et du privé. Il a été comme une sorte de passe-muraille entre ces différents domaines. Alors, je ne vais pas ici résumer son parcours, qui est impressionnant, mais simplement dire qu'il est à l'origine d'un concept tout à fait original. Il est rare qu'en droit international, on crée de nouveaux concepts. Et Jean Monnet, indiscutablement, a créé le concept de communauté, concept qui était très fécond, qui a fondé à la fois l'originalité et l'efficacité de la construction européenne. Il l'a élaboré avec le concours de juristes, comme Paul Reuter. La communauté, c'est une organisation internationale d'un type particulier qui est intégrée, où on transfère des compétences des États à des instances internationales et on exerce en commun des compétences en son sein, dans des domaines particuliers. Ces domaines sont d'abord économiques, ils contournent les questions politiques au profit de questions techniques, mais ils sont évolutifs. Et Jean Monnet y ajoute la théorie de l'engrenage, qui est qu'on doit passer progressivement de l'économique au politique. Son objectif étant la création des États-Unis d'Europe. Cette théorie a trouvé ses limites. D'une part, Jean Monnet a échoué avec la communauté européenne de défense. D'autre part, il existe un seuil politique très sensible que la théorie de l'engrenage n'a pas permis de franchir. Aujourd'hui, le droit de l'Union s'éloigne des thèses de Jean Monnet. Il est beaucoup plus intergouvernemental qu'intégré. Mais pour conclure de façon positive sur l'influence française, l'un des grands héritages de Jean Monnet est d'avoir replacé la France au cœur de l'Europe avec un projet pacifique structuré par le droit international. Je vous remercie.